Voilà, nous allons continuer notre série de prédications sur la première épître aux Thessaloniciens, donc une épître de l'apôtre Paul. Nous allons lire à partir du chapitre 3, verset 6, jusqu'au chapitre 4, verset 8. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Pour se remettre dans le fil de l'histoire, Paul écrit donc à ces chrétiens de Thessalonique qu'il avait évangélisés, et il se faisait beaucoup de soucis pour eux, parce que Paul n'était plus parmi eux, il était à Corinthe, parce qu'ils avaient subi de fortes persécutions. Et il craignait que les persécutions, en effet, aient eu un effet négatif, et que certains aient renoncé à la foi à cause de ça. Et donc, il a envoyé un de ses collaborateurs, Timothée, prendre de leurs nouvelles. Et voilà ce qu'il dit au verset 6. « Mais voici que Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a rapporté de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit en particulier que vous conservez toujours un bon souvenir de nous et que vous désirez nous revoir autant que nous désirons vous revoir. Aussi, frères, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. Oui, maintenant, nous nous sentons revivre puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur. Comment, en réponse, pourrions-nous assez remercier notre Dieu pour vous, pour toute la joie que vous nous donnez devant lui? C'est pourquoi, nuit et jour, nous lui demandons avec instance de nous accorder de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu notre Père lui-même et notre Seigneur Jésus aplanissent notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes. À l'exemple de l'amour que nous vous portons. Qu'il affermisse ainsi vos cœurs pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous ses anges. Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons, nous vous y invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus, faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. Que vous vous absteniez de toute immoralité. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi, personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti, car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Donc jusque-là. Donc comme je l'ai dit, l'apôtre Paul faisait état dans sa lettre à ses chers Thessaloniciens, Église qu'il avait fondée avec Silas, de toute son inquiétude au sujet de leur persévérance dans la foi, sachant qu'ils avaient subi de fortes persécutions tant de la part des Juifs de cette ville que des païens que les Juifs avaient réussi à exciter contre eux. À l'époque, il n'y avait pas le téléphone ni le mail. Paul avait donc envoyé depuis Corinthe son collaborateur Timothée à Thessalonique pour prendre de leurs nouvelles, un voyage de plusieurs jours. Timothée, Dieu en a rapporté de très bonnes nouvelles. Non seulement ils persévèrent dans la foi, mais ils souhaitaient vivement revoir l'équipe missionnaire qui les avait évangélisés. Paul est donc rassuré. Littéralement, il revit. Oui, maintenant nous nous sentons revivre, puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur. Ces bonnes nouvelles sont un sujet de grande reconnaissance à Dieu pour Paul et ses compagnons. Il espère beaucoup revoir les Thessaloniciens, pour avoir la joie de les revoir, bien sûr, mais aussi, on l'a lu, pour compléter ce qui manque à leur foi. Alors, que veut dire Paul par cette expression ? Compléter ce qui manque à leur foi. Très certainement, parfaire l'enseignement de la doctrine chrétienne dont il les a déjà instruits pendant les probables 2 mois qu'il a passés parmi eux. Et de fait, il va dans cette lettre leur en donner quelques éléments avant qu'ils ne puissent le faire comme ils l'espèrent de vive voix. C'est ainsi qu'il nous livre cette belle prière des versets 11 à 13. Le premier point de sa prière au verset 11, il prie que Dieu le Père et le Seigneur Jésus aplanissent leur chemin, le chemin de Paul et de Silas, jusqu'aux Thessaloniciens. Il veut dire par là qu'ils rendent possible une nouvelle visite chez eux. Notez au passage comme Paul associe pleinement Dieu, le Père, et le Seigneur Jésus dans cette demande. D'après les documents inspirés du Nouveau Testament, il ne semble pas que Paul ait finalement revu ses chers Thessaloniciens. C'est peut-être pour cela qu'il leur a adressé une seconde lettre. On a une deuxième lettre de Thessaloniciens. Cela donne un éclairage sur la question de l'exaucement de nos prières. Ce vœu de Paul n'a semble-t-il pas été exaucé ? Dieu a ses raisons. Son serviteur avait peut-être d'autres missions plus prioritaires à ses yeux. Nous aussi, nous pouvons être déçus de prières non exaucées. Nous avons évoqué cette question mardi dernier lors de la soirée de prière. Mais soyons assurés que sa volonté, la volonté de Dieu, sa volonté pour nous et pour son royaume est parfaite. Alors, faisons-lui confiance. Voilà, je vous laisse le temps de lire la diapositive. Il ne semble pas que Paul ait pu revoir ses chers Thessaloniciens, mais bon, même si cette prière n'a pas été exaucée, soyons sûrs que sa volonté était parfaite. Et c'est peut-être la raison de la rédaction de la deuxième lettre aux Thessaloniciens, qui, elle, nous est parvenue et nous est extrêmement utile. Notamment, elle contient beaucoup d'enseignements sur la fin des temps. On verra ça ensemble. Deuxième point de la prière de Paul. Que les Thessaloniciens soient remplis par le Seigneur jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et pour tous les hommes. L'amour chrétien est le test infaillible d'une vraie communion avec le Seigneur. J'ai eu l'occasion d'en voir un exemple lors de la fin de vie d'un frère de Thésée. Certains connaissent peut-être d'entre vous la communauté de Thésée, qui est une communauté de religieux dans la région mâconnaise. Et il y avait un de ses frères qui est venu terminer sa vie dans mon service à l'hôpital de Mâcon. Les frères de ce religieux étaient constamment auprès de lui, s'esquivant discrètement dès que l'infirmière venait dans sa chambre pour un soin. Cela contrastait avec tant de personnes plus ou moins abandonnées par leur famille biologique. C'était frappant et un témoignage discret mais puissant pour toute l'équipe soignante de voir quel soin ses frères dans la foi prenaient de cet homme. Nous pouvons nous appliquer aussi cette prière de Paul. Manifestons-nous réellement cet amour chrétien incomparable. Les difficultés que notre Église a traversées ont mis en évidence notre triste déficit sur ce plan. Cela va mieux actuellement, grâce à Dieu, mais nous restons fragiles et frileux, alors que nous devrions déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, comme Paul en fait la demande à Dieu pour ses chers Thessaloniciens. Troisième point de la prière de Paul, qu'il affermisse ainsi votre cœur pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu, notre Père, au jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints anges. C'est le verset 13. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 4, l'apôtre Jean a une vision de l'agneau, donc Christ, debout sur le mont Sion, avec autour de lui les 144 000 hommes, qui symbolisent les rachetés du Seigneur. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts comme des premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Et écoutez ce témoignage. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche. Ils sont irréprochables. Alors, vous l'avez noté, Paul semble lier la qualité de l'amour chrétien pour les frères et sœurs et pour tous les hommes à la sanctification des Thessaloniciens, et cela dans la perspective du retour du Seigneur Jésus avec tous ses saints anges. Le lien entre l'amour chrétien et la sanctification peut ne pas nous sembler évident. Il en donne la raison dans ce verset 13. Pour être saint et irréprochable devant Dieu notre Père au jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. On voit que Paul a le souci de la pureté de l'Église de Christ, qu'il compare à une épouse chaste. Il écrit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 27, « Il a voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. » Cette présentation aura bien lieu, en effet, lors du retour en gloire avec ses saints anges, de Christ notre Seigneur. Un déficit d'amour est une tache, un défaut, une ride sur le visage de l'épouse. Plût à Dieu que ces rides s'estompent dès maintenant sur le visage de son Église. À la suite de sa prière, Paul va prendre comme exemple fondamental de domaine d'application du principe qu'il vient d'énoncer l'éthique sexuelle des Thessaloniciens. Et bien sûr, cela est valable pour tous les chrétiens de tous les lieux et de toutes les époques. Les péchés dans ce domaine de l'éthique sexuelle sont aussi des taches sur le visage de l'épouse de Christ. C'est le sujet des versets 1 à 8 du chapitre 4. Alors au verset 1 du chapitre 4, il dit « Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi, mais nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de notre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. » Verset 2. « Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. » Verset 3. « Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints. » Et il précise « que vous vous absteniez de toute immoralité. » Je ne sais pas si j'ai la bonne diapositive. Oui. Paul fait ici allusion à un enseignement qu'il leur a donné de vive voix pendant son séjour à Thessalonique avec Silas, enseignement qui lui tient à cœur et qu'il souhaite développer et préciser sur ce point précis. Cet enseignement a trait à l'éthique sexuelle des chrétiens. On le retrouve dans d'autres épîtres de Paul, particulièrement dans 1 Corinthiens 6, et aussi des allusions dans d'autres de ses lettres. Il exhorte donc les Thessaloniciens à faire toujours plus de progrès dans ce domaine. Il ne dit pas qu'ils ont une éthique sexuelle déplorable, mais qu'ils ont à l'améliorer encore. Les pulsions sexuelles ne sont pas mauvaises en soi. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Mais le péché pervertit tout, y compris et même surtout dans ce domaine. La volonté du Créateur dans ce domaine est claire. Les rapports sexuels ne sont concevables qu'entre un homme et une femme. Déjà, ça ne va pas du tout dans le sens de l'époque actuelle. Hein ? Sinon, il s'agit de débauche. Le mot grec utilisé par Paul, c'est le mot porneia, qui a donné pornographie, etc. Tout rapport sexuel en dehors des liens du mariage est également qualifié de porneia, c'est-à-dire illicite. C'est un standard divin très élevé. Et vous notez la profondeur du fossé qui sépare ce standard de celui du monde dans lequel nous vivons. Et le Seigneur Jésus a placé la barre encore un cran plus haut. En Matthieu 5, 27, il a déclaré « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Qui peut se dire exempt de ce péché? Jésus touche là à une des racines du péché, la convoitise des yeux. Cette convoitise fait des ravages parmi les incrédules, mais aussi, hélas, parmi les chrétiens, et notamment sous la forme de la pornographie. Il est difficile, je le reconnais bien humblement, d'y résister, car elle est omniprésente dans notre société. Cela nous oblige à une sélection de ce que nous regardons sur nos écrans ou de ce que nous lisons dans nos magazines. La pornographie est terriblement perverse, car elle fausse le jugement des jeunes en particulier sur la beauté de l'amour humain, y compris dans sa dimension physique. Elle salit l'image de la femme en particulier, qui est reléguée inconsciemment à un objet de consommation. Les exhortations de Paul sont très claires. Verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous absteniez de toute immoralité. » Je ne sais pas si la pornographie existait au 1er siècle, c'est quand même probable. Mais les relations sexuelles illicites, elles existaient certainement. Les païens de culture grecque s'adonnaient à des relations sexuelles avec des prostituées dites sacrées dans les temples d'idoles, sous prétexte d'entrer ainsi encore mieux en relation avec la divinité qui était adorée dans le temple en question. Paul dénonce vertement ce travers chez les chrétiens de l'église de Corinthe qui avaient gardé cette habitude de leur ancienne vie avant leur conversion. Il écrit en 1 Corinthiens 6, verset 15, vous l'avez sous les yeux, « Ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ ? Vais-je donc arracher les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée ? Sûrement pas, dit Paul. » Alors verset 4, il continue, « Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Les pulsions sexuelles font partie de la façon dont Dieu nous a créés et Dieu a prévu les liens du mariage pour qu'elles trouvent leur satisfaction et leur épanouissement. Toute relation sexuelle réelle ou fictive, en dehors de ce cadre, est qualifiée de porneia, donc de débauche, par la Bible. Alors me direz-vous, elle est célibataire. Selon la Bible, le célibat peut être volontaire pour se consacrer au service du Seigneur. C'est alors un don particulier que Dieu accorde, selon 1 Corinthiens 7, verset 7. Il écrit « Je voudrais que tout homme soit comme moi, c'est-à-dire célibataire. Mais chacun reçoit de Dieu un don particulier de la grâce, l'un le mariage, l'autre le célibat. » Alors il est vrai que le célibat n'est pas toujours un choix, mais peut être aussi subi du fait des circonstances de la vie que Dieu permet. Là aussi, Dieu peut donner du sens à ce célibat non choisi. Les exemples ne manquent pas de vie de célibataires épanouis, engagés dans divers services de l'Église locale, dans l'évangélisation, dans la formation de disciples, et il y a bien d'autres domaines encore où des célibataires peuvent exceller. Verset 6. Là, il y a un verset, je ne sais pas quelle traduction vous utilisez, mais dans la traduction, qui peut être extrêmement variable. « Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère ou sa sœur dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. » Verset 7. « Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. » Alors, comme je le disais, ce verset a reçu diverses traductions, en particulier les plus anciennes, comme Darby ou Second. Par exemple, Darby, qui a l'avantage mais aussi l'inconvénient d'être très, très littéral, il écrit « Que personne ne circonvienne son frère, ni ne lui fasse tort dans l'affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses. » De quelle affaire parle-t-il ? La Bible Second 75 que j'ai, et je crois que c'est la même que la 1910, elle traduit « Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. » La Nouvelle Bible Second « Que personne en cette affaire ne lèse son frère ni ne lui cause du tort. Le Seigneur fait justice de tout cela. » Et la Seconde 21, donc une des plus récentes, « Que personne dans ce domaine ne fasse tort à son frère » ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes. On voit bien que ce verset a embarrassé les traducteurs. Certains y ont vu une allusion aux affaires, de type commercial. Bien sûr, ça change complètement le sens du verset. Je crois, sincèrement, qu'il nous faut adopter le sens donné par les traductions modernes. Car cette allusion aux « affaires » entre guillemets est incongrue au beau milieu d'un passage qui traite de moralité sexuelle. Paul dénonce donc là probablement des cas d'immoralité sexuelle entre couples au sein de l'Église. C'est ça, faire du tort à son frère. Et cela peut se voir dans les Églises, j'en connais des exemples. Le théologien américain John MacArthur écrit « Les chrétiens doivent donc veiller sur leur propre sainteté, éviter toute mauvaise influence et ne jamais profiter des gens, surtout d'autres croyants, pour assouvir leurs désirs impies. » On peut penser, en lisant cette citation, par exemple aussi à la pédophilie, qui malheureusement peut entacher le témoignage des églises, comme on l'a malheureusement vu s'étaler sur nos écrans et dans nos journaux au sujet des prêtres pédophiles dans l'Église catholique. Mais retenons l'argument de Paul pour s'éloigner de toute pratique de ce genre. Dieu fait justice de toute faute de ce genre, c'est-à-dire qu'il en tirera justice. Oh pardon, j'ai dû. Voilà. Hébreux 13, verset 4, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. » Dieu ne laissera pas ses péchés impunis. 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. » Et nous avons lu au verset 8 de cet épître, de ce chapitre 4, « Celui qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, Paul, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. » L'avertissement est solennel. Celui qui n'accepte pas cet enseignement ne rejette pas seulement un homme, en l'occurrence donc l'apôtre Paul qui écrit ces lignes, mais Dieu lui-même qui vous donne son Esprit Saint. L'Esprit de Dieu est saint. La norme de pureté sexuelle n'est pas celle d'un quelconque moraliste, mais celle de Dieu. Et il a donné aux croyants son Esprit Saint qui a la puissance de les conformer à cette norme, sous réserve bien sûr de leur obéissance. Paul écrit dans un autre texte, en 2 Corinthiens 2, versets 16 à 17, là j'utilise pour une fois la version Darby, il écrit « Et qui est suffisant pour ces choses ?» C'est-à-dire, qui est capable de ça ? Car nous ne sommes pas comme plusieurs, dit Paul, qui frelatent la parole de Dieu, mais comme avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, nous parlons en Christ. En somme, nous nous sentons bien faibles et peu capables de nous élever au standard de Dieu en matière de pureté sexuelle. Pourtant, ce standard élevé est bien celui de la parole de Dieu. Mais si nous sentons notre faiblesse, nous avons une ressource incomparable, la puissance du Saint-Esprit lui-même qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc non seulement le désir de satisfaire à ce standard pour nos vies, mais aussi la force pour le réaliser pratiquement. Je vous propose de chanter un cantique qui n'était pas prévu, Dans à toi la gloire. Mais beaucoup de vous, beaucoup d'entre nous le connaissent. C'est quel ami fidèle et tendre. Et si je vous indique ce que propose ce cantique, c'est parce que dans la strophe 4, celui qui a rédigé le cantique écrit « S'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. » Alors chantons ce cantique. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ.